Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Salim Nassur est là. Salut Salim.
Salut.
Le fondateur de Mars avec deux A.
Toujours.
À tes côtés, on est ravis d'accueillir Mathieu Soulet. Salut Mathieu.
Bonsoir.
Qui est responsable du labo de KT Innovation à San Francisco. Mathieu, tu vis donc aux États-Unis tout au long de l'année. De temps en temps, tu fais des détours par la France et Paris. Et tu viens nous rendre visite. Ouais. On en profite. Et écoute, voilà, tu es le bienvenu pour commenter toute l'actualité tech
toujours
du moment. Et on parlera sans doute aussi des emplois dans la Silicon Valley qui seraient menacés à cause de l'IA. Sujet très intéressant qui tombe à point nommé, bien évidemment. Et Frédéric Simotel, salut Fred.
Salut Fred, salut à tous. Et salut Fred, salut François.
Il faut s'auto-saluer de temps en temps.
Aussi, oui. Hein, j'aime
bien. Et je salue François aussi qui est avec nous ce soir.
Exactement.
Voilà, ça fait plaisir. Alors, on va commencer donc par Anthropic, qui ouvre son IA la plus puissante au public, en version bridée, hein, pour des raisons de sécurité. On a beaucoup parlé de Mythos, hein, cette IA tellement puissante qu'elle était jugée trop dangereuse pour être mise sur le marché, c'était il y a quelques semaines. Voici donc Fable 5, c'est la même, mais avec quelques garde-fous. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin.
Oui, c'est ça. En fait, on lui a mis une camisole de force à Mythos, pour le dire simplement. Mythos, c'est effectivement, on en a beaucoup parlé, hein, cette IA qui était jugée tellement puissante qu'elle pouvait être dangereuse. Elle avait notamment détecté de manière autonome des centaines de vulnérabilités informatiques qui auraient pu être exploitées par des hackers. Et donc, du coup, on l'a pas mise sur le marché. Et on a cette nouvelle version, donc Fable 5, qui est édulcorée d'une certaine manière, en tout cas sur un certain nombre de thématiques sensibles. Sur la cybersécurité, évidemment, mais aussi sur les risques d'attaques chimiques ou biologiques, parce que Anthropic estime que ces nouveaux modèles, eh bien, sont capables, par exemple, eh bien, de travailler sur des nouvelles hypothèses de virus. S'ils sont mis entre de mauvaises mains, on pourrait inventer de nouveaux types de virus, d'où l'intérêt, eh bien, de mettre en place un certain nombre de garde-fous. Donc, ce qui va se passer très concrètement, c'est que si vous commencez à poser des questions sur ce genre de sujet, eh bien, ce n'est pas la dernière version de l'intelligence artificielle qui va vous répondre, c'est une version un peu plus ancienne pour éviter tous les risques. Donc, en fait, on a une IA à deux vitesses. Les deux modèles vont cohabiter. On va avoir Mythos classique, débridé, qui sera réservé à des acteurs qui sont triés sur le volet en collaboration avec le gouvernement américain. Donc, ça pourra être des entreprises. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un favoritisme sur les entreprises américaines? On peut se poser la question. Ça pourra être aussi des laboratoires de recherche. Et puis, on aura donc cette version bridée, édulcorée, restreinte pour le reste du monde.
Voilà les explications d'Anthony Morel concernant Claude Fable 5, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, et qui fait partie donc de cette nouvelle génération d'IA chez Anthropic, qui s'appelle Mythos aussi. Est-ce que vous avez pu tester ce Fable 5? Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Tiens, peut-être commencer par Salim. Tu as eu le temps de t'amuser un peu avec?
Ouais. Alors déjà, c'est assez rigolo, mais pour ceux qui n'ont pas testé, préparez votre porte-monnaie parce que ça coûte cher.
Ouais, c'est 9 euros, je crois, le million de tokens.
En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste doublé le prix d'Opus, en fait. Donc, t'avais 4.7, 4.8. Et là, en fait, à chaque fois que tu utilises ton Fable 5, bah, ça te coûte deux fois plus cher. Donc, les gens qui se plaignaient déjà de ne pas avoir assez de temps d'utilisation, c'est pour ça que j'étais prêt. Moi, j'ai une version max, en fait. Donc, tu payes à peu près 100 euros par mois. Et ce que tu consommes d'habitude dans une journée, là, tu vas le consommer en 2-3 heures, si tu veux. Donc, c'est juste en mode testing. Après, pour l'instant, j'ai pas eu d'usage. J'ai essayé de pousser un petit peu, mais j'ai pas eu d'usage où je me suis dit, tiens, il va beaucoup plus loin. De ce que j'en comprends, par contre, c'est qu'en fait, là où il va aller beaucoup plus loin, c'est dans sa capacité d'avoir une tâche qui va être persistante plus longtemps. Tu vois, cette capacité-là qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop vu la différence, à part le prix. Mais par contre, sur ce qu'ils annoncent, c'est assez fou parce que tu passes un gap, tu vois, sur tous les benchmarks, vous avez peut-être vu, mais on ne sait même plus les mesurer. Et c'est ça, en fait, qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as une entreprise qui est, moi je le dis depuis longtemps, hein, c'est les États qui devraient limiter, qui s'auto-limitent, tu vois. C'est un peu comme si tu as un labo pharmaceutique qui a trouvé un super truc, mais qui ne va pas le mettre sur le marché parce qu'il a peur, alors que normalement, c'est le régulateur qui doit faire ça. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont un petit peu entre leur claim de départ, enfin leur proposition de valeur de départ qui dit on joue sur la sécurité. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire en enfermant un peu ce que disait Anthony tout à l'heure dans la vidéo. C'est on met une camisole de force au truc super puissant, mais au final, ils vont quand même chercher à s'imposer par rapport à un OpenAI et surtout à le monétiser. Et c'est pour ça qu'il double les coûts, si tu veux.
Ce qui est intéressant avec Fable 5, c'est que dès qu'on commence à lui poser des questions sur des sujets sensibles, comme par exemple la cybersécurité, la biologie, la chimie, eh bien là, il y a une espèce tu downgrades en fait l'IA et tu passes à Opus 4.8 qui lui, en fait, est plus inoffensif, on va dire, dans ses réponses. C'est assez étonnant et ça sera peut-être une pratique qui va généraliser, c'est-à-dire que les IA, on va dire, hyper performantes, avec peut-être des champs de réponses qui sont véritablement beaucoup plus intéressantes et importantes, seront bridées sur certains sujets.
Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus jouer comme on le faisait au tout début où on prend toujours cet exemple mais qui était véridique, où les tout premières semaines où ChatGPT est apparu, on demandait tiens, donne-moi la recette du cocktail Molotov. les premiers jours il disait oui, puis après il disait non, j'ai pas le droit de le donner. Par contre, on disait écris-moi une pièce de théâtre dans lequel des comédiens on contournait un peu astucieusement, mais aujourd'hui c'est plus possible. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à essayer de détourner un peu le son prompt pour réussir à avoir une réponse. Et puis ce qui est vu aussi sur Mythos, c'est que et ceux qui ont développé ça en ont bien pris conscience, c'est que la plupart aujourd'hui de nos programmes sont développés en langage C et C++. C et C++, le programmeur, il a accès à la mémoire, c'est lui qui peut faire n'importe quoi avec les mémoires, il peut mettre plus de données s'il veut dans un buffet tampon, enfin dans un tampon mémoire. D'accord. Et ça, Mythos va chercher beaucoup plus vite toutes les erreurs en langage C. On estime que 60% des failles aujourd'hui des programmes découverts par ces IA, ça vient de la programmation en C, en C++. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les développeurs aujourd'hui dire il faut arrêter de développer en C, il faut aller développer en langage comme Rust, enfin il y en a un autre, son nom m'échappe, mais enfin en Rust, parce que là, C++, c'est très bien, c'est des pointeurs, des machins, c'est enfin assez facile, c'est un langage assez courant qui permet de faire de jolies choses. Par contre, oui, jusqu'à une certaine époque, ça laissait plein de failles, mais le temps de trouver ces failles dans la gestion mémoire, dans les pointeurs invalides, enfin dans tout ça, ça demandait beaucoup de temps un peu. Et là, aujourd'hui, avec ces IA, le problème, c'est qu'elles ont compris comment aller chercher ces failles, et donc ça on y va beaucoup plus vite. Donc voilà.
Mathieu Mythos.
Ouais, très rapidement, il y a deux choses en fait dans les choses qui sont restreintes dans la partie biologie et notamment la distillation aussi. Donc c'est pas que des sujets de cybersécurité ou de risque terroriste, c'est aussi qui limite les concurrents potentiels de pouvoir utiliser l'outil pour entraîner leur propre. Donc, ils ont acheté une boîte dans la biologie il y a pas très longtemps justement pour dessus. Et sur la partie distillation, historiquement, il y a beaucoup entre les modèles américains et aussi chinois d'usage en fait des propres modèles pour entraîner ou surperformer dessus. Donc ils commencent.
On rappelle ce qu'est la distillation.
Ouais. La distillation, c'est la capacité, en fait, alors je ne sais pas si c'est en rétro-engineering, mais de pouvoir récupérer une partie des données et de l'entraînement du modèle pour pouvoir finalement enseigner
copier,
un autre modèle. C'est exactement dessus. Donc c'est facilité dessus.
Bah, distiller avec un autre.
Ça te permet de payer moins cher ton coût d'entraînement.
Et en dessus. Et donc ça, du coup, voilà, il commence à restreindre aussi les usages potentiellement de concurrents ou d'autres acteurs dessus. Et ce que je vais revenir juste sur la partie pricing. Alors ils ont laissé, je crois, aux États-Unis, en tout cas, ce que 22 juin. Donc ils ont, il y a deux semaines où pour l'instant c'est packagé dedans. Et après, ils montent les prix et dessus. Donc, on revient vraiment à des questions aussi dans le contexte potentiellement du filing de l'IPO, etc. La remontée des prix, des tokens, etc. Voilà, c'est assez fascinant. Et le dernier chose quand même, c'est que ça devient compliqué à suivre les noms des modèles. On parle de Mythos. Là, c'est la famille Claude Fable 5. Ouais. Donc, même les numéros, on parlait de 4.8, etc. Mmh. Ça devient quand même compliqué de s'y retrouver.
Parce que OpenAI a vite corrigé il y a quelques mois de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait plusieurs GPT, etc. Ouais. Et là, ils ont vraiment simplifié tout ça. Et je pense que Anthropic va y passer aussi.
Oh, c'est du versionning normal, en fait. Hein, parce qu'ils étaient dans la 4 et c'était du 4.1, etc. Là, avec le 5, c'est juste de dire que je passe à une nouvelle génération de modèles. Mais comme on est sur BFM Business, quand même, quand on le remet dans le cadre de l'entreprise, moi, ce qui me sidère, en fait, c'est que tu te dis... si on fait une analogie un peu avec le football, pour que tout le monde comprenne, c'est que avant t'avais des gens.
Il va peut-être pas comprendre avec le football.
Alors,
football.
Oui, non, on peut le faire avec d'autres. Voilà, ok. Mais comme le football était.
On va, en fait, c'est ça.
Parce que tout le monde parlait de PSG ces derniers temps. Mais tu vois, si tu fais une analogie avec le foot, il y avait des entreprises jusqu'à présent qui jouaient avec des crampons et qui jouaient toujours avec des chaussures normales. C'est ceux qui utilisaient l'IA, ceux qui n'utilisaient pas. Là aujourd'hui, avec ce type de modèle, tu passes vraiment où je rentre dans la Champions League et j'ai que des Mbappé ou des je suis pas très bon en foot, désolé, dans mon équipe, et j'en ai autant que je veux. Et donc il y a des entreprises déjà qui étaient en retard, Mais là, celles qui n'ont pas accès à ce modèle-là, elles ne sont plus en retard, elles sont déclassées en fait. Ouais, et là, tu fais vraiment un gap énorme entre ceux qui n'utilisent pas, ceux qui utilisent mais avec pas les meilleurs modèles, et eux qui se gardent le meilleur modèle pour prendre le dessus de tout le monde finalement.
Ça permettra de rebondir sur le dernier sujet tout à l'heure, sur l'emploi dans la Silicon Valley. Parce que ça,
oui, 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 très intéressant.
Mais il y a autre chose aussi, oui. Juste un mot. Oui. Pourquoi on a tout ça en ce moment aussi ? Pas oublier qu'on est dans une grande campagne de communication. Hein. On a Tesla avec SpaceX avec X qui est partie intégrante à l'IPO demain.
Les IPO se préparent.
Oui, on a l'IPO de OpenAI, on a appris, ils avaient déposé un dossier. On a Perplexity aussi, qui alors lui, c'est plutôt 2028, il se donne encore peu de temps. Mais il y a Anthropic aussi, donc aujourd'hui, voilà, ça tombe bien d'en parler un peu en ce moment.
Ouais, mais là où je te rejoins pas, Fred, c'est que t'as raison. En attendant, quand tu regardes sous les benchmarks, c'est 20 points de plus qu'avant, en fait. Tu vois, c'est pas juste une question de communication, c'est aussi la capacité d'avoir quand même réussi.
L'accent sur cette communication, justement, tu vois, on pourrait dire on est meilleur et tout ça, mais là, les gens le voient et...
Ouais, mais en fait, c'est vraiment, en fait, c'est un bond qui a été fait en très peu de temps. Si tu reviens, même pas à 4.8, mais 4.7, c'était il y a 4 mois. Tu te rends compte, en fait, ça va très très vite.
Je pense que c'est pas par hasard.
Oui, mais tu voudrais.
Quand ils ont dit Mythos, il y a quelques semaines, ils ont dit on vous donne pas Mythos parce que c'est beaucoup trop puissant. Comme par hasard, deux jours après, en fait, on a déposé notre dossier en bourse. Alors les gens se disent.
Non, mais d'accord, mais reviens dans le monde d'avant. Reviens dans le monde d'avant où tu n'avais pas le. Parce qu'en fait, ce que dit Anthropic, c'est qu'aujourd'hui, 80% du code est généré par Claude, en fait. Donc les devs là-bas, ils sont en mode orchestration, pilotage, etc. Dans le monde il n'y a pas si longtemps, ce qu'ils ont fait là, ça aurait pris une ou deux années, en parlant moi. Donc, ce n'est même pas une question de... Ils annoncent parce qu'il y a l'IPO. Évidemment, ça va aider sur la com. Mais c'est juste qu'on passe des caps.
Ça arrive au bon moment.
Ça arrive quand ça arrive et ils vont très vite.
Ça arrive au bon moment.
Mathieu, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a une vraie appétence pour Anthropic dans la Silicon Valley ? On voit que souvent, tous les débriefeurs que je reçois ici disent... Moi aujourd'hui, voilà, c'est vraiment Anthropic. On se sert de Claude, etc. On se sert beaucoup moins de Gemini, on se sert beaucoup moins de ChatGPT. Est-ce que c'est pareil dans la Silicon Valley ou c'est plus nuancé ?
Il y a eu des modes. On a eu des modes ChatGPT, il y a eu une mode Gemini, il y a eu une mode Anthropic, et notamment sur un fait pour revenir dessus, notamment sur ce modèle-là, c'est sur la partie software, vraiment sur la partie développement du code en fait. Et c'est ça qui est en train de sacraliser. Je le dis souvent, mais pour reprendre la question d'espace temporel, il y a même 6 mois ou 9 mois. Ni OpenAI, objectivement, ni Anthropic pensaient faire autant de revenus en dessus et pensaient faire une IPO dessus. Donc, dans les rêves les plus fous, ça s'est accéléré. Et c'est notamment, et ce modèle-là le rappelle, hein, la première chose qu'a dit Anthropic, c'est sur les benchmarks du software et du développement de software. C'est quand même ça l'application, la killer app, en fait, en dessus. Ça s'est encore amélioré et c'est sur ça qu'en fait, l'essentiel de la monétisation se joue. Il y a d'autres façons de monétiser, on y reviendra peut-être plus tard aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la partie code dessus. Après, code, aujourd'hui, c'est en qualité. Si on parle de coût-prix, enfin prix versus qualité, etc., il y a des modèles open source, notamment chinois, qui sont parfois 10 fois moins chers. Donc, même côté entreprise, il y a un sujet permanent en ce moment des fameux budget tokens, parce que même si le code est bien meilleur et une partie des entreprises préfèrent avoir le meilleur code et le meilleur, précision, sur des tâches très récurrentes, etc., le fait d'utiliser des modèles open source, chinois ou pas d'ailleurs, dessus, peuvent permettre de limiter les prix. Donc, il y a une course, entre guillemets, à la fois à la qualité, mais le prix, entre guillemets, à partir du moment où on parle de budget en dizaines de millions, centaines de millions pour certaines entreprises tech aujourd'hui, ce qu'on appelle les AI natives, est en train de jouer. Et l'essentiel de ce budget-là aujourd'hui est consacré quand même à du software code et le parti.
C'est 10% de la masse salariale en gros.
Moi, je veux juste revenir sur un point parce que ça, c'est vraiment l'erreur que font beaucoup d'entreprises. Le coût de l'IA, il n'est pas qu'autour du token ou de l'abonnement en fait. En fait, quand tu regardes un Claude qui est très bon dans le code, hein, et tu as raison, c'est pas que dans le Claude. Aujourd'hui, tu as un Claude design qui est très très bon. T'as un Claude sur la rédaction qui est très très bon. Même sur de l'Excel, en fait, tu vois, tu vas arriver. Et d'ailleurs, ils ont des petites vidéos très sympas qui t'expliquent comment l'utiliser dans un cabinet d'avocat, comment l'utiliser dans un cabinet comptable. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a pas que le coût d'utilisation, c'est combien de temps, un, la personne qui l'utilise met du temps à l'utiliser. Deux, est-ce qu'il doit revenir dessus? Et tu regardes, en fait, quand Claude te sort quelque chose, c'est quand même très propre. C'est tout de suite, tu peux... Limite, moi, aujourd'hui, tous nos rapports, on les fait sur Claude, tous les Excel, parce qu'il fait même moins de fautes que sur d'autres modèles, et même chez Copilot. Donc, tu n'as pas à retravailler dessus, ce qui est du temps dans ton entreprise où tu payes quelqu'un à retravailler le travail de l'IA.
Mais
c'est ça. Mais tu le retrouves
finalement.
L'outcome est beaucoup meilleur, tu vois.
Mais on voit quand même dans pas mal d'entreprises, on voit ce qu'on appelait les FinOps, ceux qui justement géraient les instances cloud, justement, pour que tout le monde ne s'amuse pas, c'est la fête au village. On voit quand même, là, ils sont en train de regarder beaucoup plus et essayer d'éduquer. Alors, ça commence par les développeurs, mais eux, voilà, on a une population qu'on arrive à bien cibler. Mais ils essaient de plus en plus de cibler leur population métier pour leur dire, attendez, on n'est pas tous...
Il y aura du multimodèle.
Voilà, il faut être là, ce sera Claude, là, pour juste la recherche documentaire et du résumé.
Ouais, mais regarde, même là-dessus, tu vois, tu parles d'éduquer, pour le coup. Vous savez que moi, j'en fais beaucoup, si tu veux, enfin, en tout cas, ma boîte de formation, mais rien que ça... Tu mets dans la main des gens des modèles qui sont très puissants et tu leur expliques pas comment faire. Tu vois le truc tout simple, hein, notamment, alors ça marche dans tous les LLM, dans toutes les IA et particulièrement sur Claude. Au lieu d'uploader un Word ou un PDF, tu vas le mettre en Markdown, donc en .md, et ça va te réduire vachement ton nombre de tokens. Mais ça, si tu l'expliques pas à tes collaborateurs, ils vont te pourrir et ça va te coûter un même nombre de tokens pour le même résultat.
C'est ça que je dis, c'est FinOps là, qui arrive aujourd'hui.
On reste dans ce, évidemment, ce thème de l'IA qui est très intéressant. Avec cette question, est-ce que on va, avoir une baisse du coût de l'IA? Et c'est intéressant parce que c'est paradoxal. On expliquait que Mythos et Fable 5 étaient assez chers, beaucoup plus chers que les précédents modèles. Mais en même temps, il y a Google qui vient de dégainer une offre assez intéressante avec Google AI Plus, qui est une offre assez complète puisque on peut évidemment se servir de Gemini Pro 3.1, avoir accès à Deep Research, Nano Banana Pro, aussi vidéo le VO 3.1 Fast,
notebook là pour faire les
voilà notebook LLM, et en plus on a du stockage, 400 gigas de stockage au lieu de 200, et en fait, Google divise par deux le prix de cet abonnement qui est aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, à 4,99€ par mois. Donc, il y a une volonté d'être agressif sur un sujet qui est, de manière presque automatique, de plus en plus cher. Je trouvais intéressant de débattre là-dessus parce que est-ce que c'est Google qui veut un peu mettre la pagaille là-dedans et dire, attendez, comme moi, en plus, j'arrive à avoir peut-être, grâce à mes calculateurs, grâce à mes data centers, à faire baisser le coût, en fait, de cette IA, ben, j'en profite pour ouvrir une brèche. Ou est-ce que c'est une tendance qui va généraliser, que tous les autres vont suivre? Tiens, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses?
Alors ça, c'est plutôt des prises qui sont, entre guillemets, pour du grand public ou pas des très grandes entreprises. Donc c'est pas forcément, ça ne s'adresse pas exactement aux mêmes personnes. Oui. Et pour moi, clairement, Gemini, en fait, il n'y en a que deux qui jouent le jeu grand public, hein, aujourd'hui, vraiment. C'est objectivement ChatGPT et Gemini. Je crois que les parts de marché, je regardais ça, c'est à peu près 54% aujourd'hui de ChatGPT versus à peu près 27% de Gemini et Anthropic à moins de 8% et DeepSeek à 4%. Donc vraiment le jeu entre guillemets aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, c'est entre ChatGPT et Gemini. Et justement Gemini, Google hein, essaye de rattraper entre guillemets le retard qu'il avait pris sur ChatGPT, il y a les versions payantes dessus, et essaye aussi d'attirer ça, parce que l'offre équivalente, je crois, de côté de ChatGPT, je crois que c'est autour de $10 par mois, et donc du coup, voilà, mécaniquement, c'est deux fois moins cher. Donc on est vraiment dans ce rattrapage côté grand public, ça permet pas hein, de faire des agents, des trucs très sophistiqués, parce qu'on est très limité en token, etc. Donc cette offre-là, ça reste du grand public ou des petits professionnels dessus, mais en tout cas, c'est intéressant, et ça montre aussi que, encore une fois, hein, ces modèles de monétisation de l'IA, on a, dans le passé, il y a des gens qui ont testé ou qui testent toujours de la pub. Là, on parle de version plus ou moins freemium dessus. Il y a plein de sujets après de token, pas de token, aussi d'accès aux API, et c'est encore très changeant dessus. Donc, pour l'instant, je dirais, on est encore une fois, on est dans les balbutiements des types de monétisation. On avait aussi le paiement qu'avait testé ChatGPT dans celui qui a été testé, arrêté il y a quelques mois aussi. Donc, chacun essaye de tester plusieurs choses, et encore une fois, là, c'est plutôt une course pour moi au grand public aussi. Et une dernière chose, peut-être en grand public, c'est aussi dans la captation des usages. Là, on parle pas des entreprises, des individus. Une fois qu'on a mis ces agents, on a testé différentes choses dans une interface, il y a un moment, on prend ses habitudes dessus. Et donc, ils essayent de capturer, en tout cas, côté grand public, ces questions d'habitude. Google a quand même et une marque, oui. Et Gmail, etc., plein de trucs intégrés, et vraiment en lutte frontale pour moi avec ChatGPT là-dessus.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vrai qu'on peut comparer cette offre à celle de ChatGPT Go, qui coûte $8, enfin 8 euros par mois à peu près. Mais est-ce que, la question que je me pose, c'est est-ce que les particuliers, vous, moi, n'importe qui, sont prêts à payer pour avoir une IA? C'est ça la question. Et c'est peut-être pour ça aussi que Google casse les prix. Parce que dans cette offre-là, il n'y a pas que l'IA, il y a aussi 400 gigas de stockage. Tu vois, donc en fait, ça peut intéresser aussi des particuliers qui se disent « Ah là là, mon Gmail, il est un peu court, c'est qu'un giga. » Là,
je me retrouve avec Google Photos. Tes photos, où est-ce que je mets mes photos ?
Exactement, je stocke toutes mes photos, etc. Là, je me retrouve avec 400 gigas qui commencent à être assez confortables. Et en plus, j'ai de l'IA. Pourquoi pas ? Et on se dit, voilà, est-ce que les gens sont prêts finalement à donner même quelques euros par mois ? Alors que, je vous rappelle que on se fait tous kidnapper tous les mois plusieurs dizaines d'euros avec tous les services de streaming. Est-ce qu'on est prêt à mettre 5, 6, 7, 8, mais 9, 10 euros
tu réponds
dans
la question. En fait, quand tu mets 10, 20 euros dans un truc de streaming qui est juste, tu te mets devant un écran et tu regardes, quand tu commences à comprendre la valeur de tout ce que tu as dans 5 euros, et les gens vont commencer à comprendre, c'est plus... Évidemment qu'ils vont le capter à 5 euros. Mais moi, la question que je me pose...
Après, Google est moins divertissant dans l'ensemble.
Tu peux avoir des divertissements. Tu vois, c'est marrant, je faisais le jour, j'étais dans un séminaire d'entreprise, et y a une dame qui me dit, ouais, mais alors, côté grand public, alors ça sert à quoi cette IA, là ? Et je dis, regarde, t'as des enfants ? Et elle me dit, oui. Et ben, tu sais, en fait, quand tu fais des invitations, vous avez déjà peut-être fait ça pour vos enfants, t'envoies des invitations à tous leurs copains, il faut que tu écrives, machin, etc. Je dis, tiens, regarde, je prends une photo, hop, je fais une invitation, je demande à l'IA de personnaliser pour chacun, ils ont un petit mot différent, et ça part. Il me dit, ah ouais, c'est pas bête ça. Donc quand les gens auront réalisé que même dans leur application grand public, ça peut leur servir,
ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore
euros,
le cerveau qui
voilà,
est...
5 euros, c'est rien du tout. Mais en fait, si tu veux, pour moi, c'est pas la question, elle est pas... Enfin, elle est bonne ta question de se dire, est-ce que les gens paieront ? Je suis assez convaincu qu'ils paieront. La vraie question, c'est, est-ce que c'est le vrai prix ? La réponse, c'est non. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de faire Google ? Alors, mes anciens collègues n'aimeront peut-être pas ce que je vais dire, même si j'ai beaucoup de respect pour Google et pour eux, mais pour moi, c'est le chinois de l'IA, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire du dumping sur un prix pour emporter le marché.
Et après, donc, petit à petit, remonter les tarifs.
Mais ça a toujours été la stratégie de Google.
Uber,
sur Android,
sur
le navigateur, sur etc. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ton utilisateur qui a mis toutes ses données, qui a mis sa mémoire, qui a toute la connaissance, parce qu'en fait, le truc, il est sur la data.
Oui.
Il a toute sa connaissance, tout ça, il ne va plus bouger ailleurs. Et c'est-à-dire qu'après, tu l'as dans Google Home, tu l'as dans ton Android Car, etc.
Et à mon avis, c'est les 400 gigas aussi qui font faire la différence.
Mais si tu veux, le move de Google, c'est un, pour avoir l'accès en distribution, la plus large possible. Mmh. Et deux, je pense aussi, un petit tacle à OpenAI pour les asphyxier, parce qu'ils ne pourront jamais suivre. Et que là, en pré-IPO, ils sont plutôt en train d'essayer de monter les prix.
Je rejoins Salim, c'est quand moi, je vois autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui commencent à rentrer dans le jeu. Quand ils passent tout un samedi à faire justement ces invitations et tout ça, très vite, on te dit, vous voulez passer à la version machin, et là, première fois, tu dis non, deuxième fois, tu dis non, et puis troisième fois, tu dis, bah si, j'en ai quand même besoin, c'est hyper pratique, je fais mon courrier pour les impôts, et là, je peux dire que moi, autour de moi, alors, on vit peut-être dans un monde où les gens regardent un
peu moins les... Oui, ils sont vraiment représentatifs
du
français.
Mais en tout cas, tous sont en train de passer, parce qu'il y en a plusieurs qui m'appellent, il faut passer à la version payante ou pas. Ils sont tous en train de se dire, tiens, finalement, je suis prêt à payer pour ça. Et donc, déjà pour ça, je pense qu'ils vont y aller. Après, quand on voit une baisse comme ça de 40%, alors effectivement, on ne sait pas si c'est le coup. Moi, je dis, soit on a un coût marginal d'accès au modèle qui baisse. C'était le cas quand on avait le cloud, les télécoms, le stockage. C'était un peu ça. Ça ne doit pas être trop le cas, parce que ça continue à augmenter, même s'ils réussissent à réduire le prix. C'est que la concurrence les oblige. Et là, la concurrence, aujourd'hui, elle est forte. Et Google veut capter tout ça. Je pense que ce que dit aussi cette annonce, c'est que la guerre des prix sur l'IA, elle commence vraiment. Là, ça y est, on se lance. Que quand sur le grand public, on commence à dire mon offre à 4,99 et vous aurez c'est beaucoup plus cher, mais et vous aurez tel type d'offre, tel type d'IA et tout ça. Ça y est, on commence à avoir cette guerre des prix. Et puis l'IA devient une fonctionnalité, quoi. C'est pas un produit aussi, ça. Je trouve que ça comprend. Et puis on est dans l'écosystème. Vous avez du Gmail, vous avez tout ça. Vous allez avoir mon IA.
Mais ça va pas faire les affaires d'OpenAI, tout ça.
Ah non, je te dis, c'est un petit tacle bien régulier.
C'est plus qu'un tacle, quoi.
C'est un
peu croche-pied, quoi. Et là, il mange la pelouse, hein.
Et puis pour moi, la valeur, elle se déplace du modèle vers l'intégration. Le but, c'est d'avoir tout intégré. J'ai mon Gmail, j'ai mon Drive, j'ai mon machin.
Alors j'ai même que, au-dessus de l'intégration, l'orchestration, en fait.
Oui, en plus.
Parce qu'en plus, avec les dernières annonces, là, d'Apple et de Microsoft, tu vois vraiment que le layer, il va être au-dessus.
Non, bien sûr.
C'est sur l'orchestration, en fait.
Mais tu prends ChatGPT à 8 euros, t'as pas de stockage. Et qu'est-ce qui intéresse les gens ? au minimum, c'est le stockage. Au minimum, c'est ça. Et puis, s'il y a l'IA, bah, peut-être que Google, s'ils sont intelligents, ils vont le pousser intelligemment quand ils s'en serviront. Et puis, petit à petit, goûteront à tout ça. Mais je pense que le produit d'appel dans cette offre-là, c'est même pas l'IA, c'est les 400 gigas de stockage. Parce que les gens se disent, waouh, pour 4,99, j'ai du stockage. Et j'ai dit, ah, si j'ai l'occasion, je testerai un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis pendant ce temps-là, tu stockes toute ta vie. Et le jour où tu seras complètement pieds et poings liés avec Google, tu n'iras pas voir ailleurs.
Tiens, ça nous rappelle quelque chose, mais ils sont où les Français?
Ah!
Oh là 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 là! Oh, mais là! Non, mais là! Non, mais non!
Fred, s'il te plaît. Tu dis rien.
Tout se passait bien jusque-là.
Ouais, là, d'un coup, ça se. Hein.
Là, t'as mis un blanc.
Que nos opérateurs auraient pu, nos opérateurs télécoms auraient pu jouer.
Non, mais c'est vrai qu'on a Mistral, c'est vrai.
Nos opérateurs.
Oui, mais
façon SFR, par exemple.
C'est eux qui ont l'accès à l'abonné. Ils auraient peut-être pu tenter aussi.
Ah oui, oui.
Mais tu sais qu'ils sont tentés. Hein. Rappelle-toi, il y avait Bouygues, il y a deux ans, avait passé des accords avec Anthropique.
Je parle sur le côté souveraineté.
Ah, souveraineté, bien sûr, oui. mais je crois qu'Orange avait fait une offre avec Mistral.
Oui, il me semble.
Mais qui n'est pas...
C'est en train de me...
Qui n'a pas bouleversé, on va dire, les foules quand même.